Le sanctuaire de Turin, de Monsieur Henri de Merville. Une récente communication de Monsieur Delange à l'Académie des sciences est venue raviver les discussions au sujet du sanctuaire de Turin. Cette communication portait, on le sait, sur les travaux d'un jeune savant, Monsieur Paul Vignon, préparateur à la Sorbonne, qui croit pouvoir conclure scientifiquement à l'authenticité de ce linceul. M. Vignon affirme, au nom de la chimie et de la physiologie, que ce linceul est bien celui du Christ, qu'il ne peut être que celui-là, et que l'image s'est reproduite sur l'étoffe par un effet absolument naturel, l'oxydation de l'aloès déposée comme aromate sur le linceul, oxydation produite par les vapeurs ammoniacales qui se dégageaient du corps du supplicié. Et cette image, ajoute M. Vignon, n'a pu se conserver que par le fait d'un court séjour du corps dans le linceul, car un séjour prolongé aurait amené une oxydation générale, une tache brune uniforme ou la décomposition du linceul avec celle du corps. Sans conclure à la résurrection, M. Vignon, qui n'est pas un croyant, se borne à constater avec les évangiles que le corps du Christ n'est pas resté un long temps dans le linceul. Cette communication a causé un mouvement assez considérable de curiosité pieuse ou mondaine. On a exposé, çà et là, des photographies du suaire, on y est allé en foule, et plusieurs qui ne rêvaient pas un Christ de cette sorte s'en sont allés, comme le centurion du calvaire, en déclarant que c'était bien là le Fils de Dieu. Tant il est vrai que nos yeux nous font voir souvent ce que nous désirons avoir vu. M. Paul Vignon ne s'en est pas tenu là. Il vient de publier un très beau volume que nous avons voulu lire, « Le linceul du Christ », et c'est de quoi le féliciter, car nous y avons trouvé beaucoup d'érudition, de savoir et de bonne foi. Est-ce une raison suffisante pour admettre sa thèse? Ne peut-on pas se tromper de bonne foi, avec beaucoup de savoir et d'érudition? N'y a-t-il pas toujours d'un côté des preuves apportées, d'autres preuves qui manquent, d'autres expériences qu'on n'a pas faites et qui pourraient être contraires? D'autres renseignements aussi? Nous ne voulons pas discuter science avec M. Vignon, nous serions battus d'avance. Nous voulons simplement résumer les débats, soulever des objections de bon sens et laisser à chacun le soin de conclure à sa guise. Plus encore que les incrédules, les catholiques doivent, à notre avis, se montrer difficiles dans leur foi aux reliques, car un culte irraisonné ferait plus de tort à la religion chrétienne que toutes les négations. C'est ainsi que, pendant la Révolution, on envoya de Besançon à la Convention le Saint-Suaire, vénéré jusque-là dans cette ville, et qui, nous le savons, était une vulgaire copie de celui de Lirée, qui est maintenant à Turin. Ce fut à la Convention l'objet d'une risée générale, et le prétendu suaire fut brûlé avec le bois qui servait à guider le pinceau quand on voulait raviver les couleurs du linceul. Ce qui nous étonne le plus, c'est de voir maintenant les partisans du miracle, ceux qui croient à l'authenticité du Saint-Suaire de Turin et à l'impression miraculeuse du corps du Christ sur son linceul, se réjouir de la thèse de M. Vignon parce qu'elle est censée détruire la thèse de ceux qui démontraient historiquement son origine très douteuse. Mais la thèse de M. Vignon tente à détruire aussi la foi au miracle, et c'est une singulière joie que d'être blessé par un tiers, à condition que l'adversaire le soit aussi. S'imagine-t-on un duel où les combattants, ne pouvant se toucher, s'en iraient enchantés de ce qu'un témoin a bien voulu se charger de les blesser tous les deux? Depuis l'ostension solennelle du Saint-Suaire de Turin en 1898, ostension qui n'avait pas été renouvelée depuis 1868, une foule de brochures ont paru à l'occasion de la photographie obtenue par le chevalier Segondo Pia, les unes affirmant, les autres contestant l'authenticité de ce linceul. M. Lotte affirmait, l'abbé Lalore, l'abbé Ulysse Chevalier, approuvé par M. Léoport de Lille et les Bollandis, et M. Fernand de Mélie, contesté, tandis que Mgr Colomiati, provicaire général de Turin, soutenait l'authenticité sans apporter aucune preuve. Le procès est donc plaidé sous toutes ses formes. Le dossier est complet et nous avons sous les yeux les travaux également intéressants des chartistes, des archéologues, des chimistes, des physiologistes et des théologiens. Nous n'avons qu'à lire et à nous faire une opinion, si bon nous semble, ou à attendre jusqu'à plus ample informé, car on sait qu'un procès n'est jamais si fini qu'on ne puisse le recommencer. Tout d'abord, nous écarterons la théorie du miracle, non pour le nier, mais pour mieux respecter ce qui n'est pas de notre compétence. S'il y a miracle et qu'on nous le prouve ou que l'Église l'affirme, il n'y a plus à discuter pour ceux qui acceptent ces croyances. Mais ce n'est pas le cas. Un pape, antipape pour les uns, pape pour les autres, a défendu d'exposer ce suaire sans faire crier par un héros que ce n'était là qu'une image du vrai suaire. Un autre pape a autorisé la vénération de cette relique, mais somme toute, l'Église ne s'est pas prononcée et ne pouvait pas se prononcer. Les suppositions que l'on peut faire au sujet du Saint-Suaire sont les suivantes. Si le linceul est authentique, ou bien l'image du Christ y est formée par miracle, ce qui est l'opinion de plusieurs, ou bien elle s'est formée par une opération chimique spontanée et toute naturelle, ce qui est l'avis de M. Paul Vignon. Si le Saint-Suaire de Turin est faux, c'est qu'on l'a peint ou imprimé sur toile, ce qui est l'opinion du savant abbé Ulysse Chevalier, professeur au grand séminaire de Romans, et celle de M. Fernand de Mély, lauréat de l'Institut, dont les travaux archéologiques sur divers sujets, notamment sur les reliques de la Passion, ont acquis une grande autorité. Mais si le Saint-Suaire de Turin est faux, il se peut encore que l'image ait été obtenue sur un cadavre quelconque par un habile trucage. M. de Mély a compté 28 Saint-Suaires de par le monde, dont le plus inconnu est celui de Johann Avanc en Arménie. Personne n'a pu encore l'examiner ni le photographier. Écartant la théorie du miracle, il nous reste à étudier trois suppositions. Apparition spontanée de l'image par un effet physique, peinture ou impression, et enfin, trucage sur un cadavre quelconque donnant les traits qu'on suppose au Christ, avec les blessures qu'il avait reçues. Mais d'abord, comment est le Saint-Suaire de Turin? Qui l'a vu? Qui l'a touché et analysé? Que valent les photographies qu'on en a faites? M. Paul Vignon n'a pas vu le Saint-Suaire et il affirme que le voir ne lui apprendrait rien de plus. Nous serions malvenus à lui reprocher cette ignorance puisque nous n'avons pas vu plus que lui. Mais tandis qu'il a la foi de Saint-Louis, nous avons plutôt, en pareille occurrence, celle de Saint-Thomas. Nous demandons une vision plus proche, une étude plus certaine, une analyse plus concluante, car jusque-là, on ne pourra faire que des suppositions et des raisonnements sans base certaine. Si le drap est peint, on pourra le constater. Si l'image est le produit de la décomposition graduée des aromates, on retrouvera chimiquement l'aloès, car M. Vignon nous explique très bien dans son livre que si les aromates avaient été versés en onction sur le corps du Christ, le linceul n'aurait reçu aucune image et que l'image n'a pu se produire que parce que les aromates avaient été étendus sur le linceul. Il nous faudrait donc un peu plus de lumière, un po' più di luce, comme le réclamaient autrefois les Italiens, et c'est précisément ce à quoi se refuse la maison de Savoie, possesseur et gardienne de cette relique. Peut-être changera-t-elle d'avis en présence de tant de controverses. L'abbé Ulysse Chevalier n'avait pas à étudier la nature du Saint-Suaire, il n'examinait que son origine historique. Mais M. de Mély a vu le Saint-Suaire pendant l'ostension de 1898, et c'est, nous a-t-il dit, un drap jauni, couleur tabac, avec traces de brûlures et de rempiècements, sur lequel on distingue très vaguement une double silhouette humaine, une silhouette un peu plus foncée que l'étoffe. Le linceul a 4,10 m de longueur sur 1,10 m de largeur, d'après le chanoine Cuse, qui a écrit l'histoire du Saint-Suaire de Turin, avec toutes les légendes qui l'entourent et sans aucune tentative de critique historique. En 1898, le cadre préparé pour l'ostension était un peu trop court, on a dû replier l'étoffe, ce qui nous prive de la vue des pieds dans la photographie de la face antérieure. Tout d'abord, qu'on remarque cette largeur de 1,10 m. Il y a lieu de rechercher si les métiers à tisser chez les Juifs comportaient cette exacte dimension et personne, que nous sachions, ne s'en est encore préoccupé. C'était cependant un point essentiel et nous espérons que des recherches seront faites dans ce sens. Le suaire de Besançon avait, dit le chanoine Cuso, 2,60 m sur 1,30 m. Celui de Compiègne, qui a également disparu en 1793, avait 2,40 m sur 1,20 m. Celui de Cadouin, au diocèse de Périgueux, mesure 2,81 m sur 1,13 m et n'a aucune image du Christ. On le voit, toutes ces étoffes diffèrent en largeur et sortent de métiers différents. Quant à la photographie tirée du Saint-Suaire par le chevalier Secondo Pia, avec l'intervention du baron Manu, il n'y a pas à douter un instant de son exactitude et de la sincérité des opérateurs. Elle a été prise sous la lumière intense de deux puissants foyers électriques et prise directement et non par transparence, car le Saint-Suaire est doublé d'une étoffe. Après l'incendie de 1532 à Chambéry, le linceul fut reprisé et doublé de toile. En 1694, la toile fut changée pour une étoffe noire et en 1868, comme la doublure était en mauvais état, la princesse Clotilde, c'est M. Vignon qui nous l'apprend, se chargea elle-même de remplacer cette étoffe par une doublure en taffetas cramoisi. La photographie est donc directe et cela vaut d'être noté, car en transparence, des matières colorantes auraient une action particulière sur la photographie. Nous avons dit que le corps du Christ apparaissait sur la toile du linceul avec une teinte un peu foncée. S'il a été peint, il a donc été peint en négatif, les parties claires en foncé, les parties foncées en clair, ce qui est contraire à toutes les conceptions de l'art. En effet, la photographie a donné un cliché positif, à l'inverse de tous les clichés, qui sont toujours le négatif de l'objet photographié, sauf dans de rares occasions de pose prolongée. M. Vignon s'évertue à nous prouver que le cliché de M. Secondo Pia était un négatif correct, puisque, dit-il, les traces de brûlure sont en blanc et que les pièces de l'étoffe blanche sont en noir. Si un cliché nous donne du blanc en noir et du noir en blanc, c'est bien ce que nous appelons un cliché négatif, mais comme le corps est en noir et en négatif sur l'original, il en résulte qu'il est en blanc et en positif sur le cliché, ce qui constitue un cliché positif. N'insistons pas sur cette querelle de mots, car c'est un positif tout en étant un négatif, et c'est un négatif tout en étant un positif. Nous n'en sortirions pas s'il fallait discuter de la sorte. L'image est double sur le Saint-Suaire, l'une antérieure, l'autre postérieure, se rejoignant presque par la tête. La raison en est simple. Le linceul a été posé à terre, on y a déposé le corps, et le drap a été replié sur le corps, de la tête aux pieds. L'image s'étant imprimée des deux côtés, il suffit de déplier le linceul pour avoir ces deux images juxtaposées par la tête. Là encore, il faut se demander si les Juifs ensevelissaient de cette façon, ou avec un drap replié de côté, ou par bandes de toiles enroulées en spirales autour du corps, avec bandelettes assujettissantes, car l'évangile de Saint Jean, c'est celui sur lequel s'appuie M. Vignon, dit expressément que le Christ a été enseveli selon la coutume des Juifs, ce qui explique les aromates. Et il dit aussi « ligaverunt illud ». La photographie a donc donné un cliché positif pour le corps du Christ, puisque le linceul le montre en négatif. Il en est résulté que les épreuves ont restitué l'image originale en négatif et qu'il a fallu faire un second cliché sur le premier cliché pour obtenir des épreuves en positif. Là sont apparus les traits un peu plus clairement. Nous avons vu les premières épreuves vendues à Turin, elles sont peu déchiffrables. On a fait des agrandissements et peu à peu, on en est arrivé à la tête, grandeur naturelle, que nous avons vue et où les yeux ouverts sont très distincts. Le Gaulois du dimanche, paru le jour de Pâques, en a donné une bonne réduction. Nous trouvons cependant quelques différences entre les diverses épreuves publiées. Dans les épreuves du livre de M. Vignon, les gouttes de sang apparaissent sur l'épreuve négative en taches noires très nettes et les moustaches sont comme deux taches d'encre. Il est bien évident qu'en passant par tant d'appareils photographiques et de plaques de photogravure, la photographie originale de M. Segondo Pia a pu recevoir, sans qu'on le veuille, quelques éclaircissements ou obscurcissements de détails. Les instruments ne sont jamais parfaits. Il conviendrait donc encore, à ce point de vue, de photographier à nouveau le sanctuaire de Turin et d'y laisser voir cette fois les pieds. Certes, il serait à souhaiter que nous puissions acquérir la certitude de l'authenticité du sanctuaire de Turin, car nous aurions ainsi la relique la plus intéressante de la Passion, nous aurions le portrait certain du Christ, quoique portrait d'un mort, défiguré par le supplice et l'agonie. Saint Augustin dit qu'aucun monument contemporain ne nous a laissé les traits du Fils de Dieu et, depuis 16 siècles au moins, les artistes, bons ou mauvais, s'efforcent de créer, d'après la tradition, un type idéal de Jésus. Il faut avouer qu'ils n'y ont guère réussi. Était-il beau? Était-il laid? Nous ne le savons même pas. La tradition nous dit seulement qu'il portait la barbe et les cheveux longs partagés par une raie médiane. D'où vient cette tradition? Nous l'ignorons, car le portrait qu'on attribue à Saint-Luc et qui est à Rome, à la Scala Santa, ne laisse pas voir les cheveux. La Sainte Véronique, ou Sainte Vraie Image, conservée à Saint-Pierre de Rome, nous montre un Christ chauve et nous n'osons guère parler du prétendu portrait authentique et contemporain du Christ, envoyé à Abgar et conservé à Saint-Sylvestre de Rome. Une seule chose est à noter dans ces trois portraits, c'est la longueur du nez, à peu près identique, longueur encore dépassée par l'image de Turin. Il est admis généralement que le Christ était le plus beau des hommes et il y a eu comme un concours entre artistes à travers les siècles pour en faire un type de beauté masculine. Le Christ de la cathédrale de Chartres a les cheveux en bandeau ondulés comme une femme et la barbe frisée. Même coquetterie dans le beau Dieu d'Amiens. Michel-Ange en a fait, dans son jugement dernier, une sorte d'Hercule sans barbe. Raphaël lui a donné le type un peu efféminé et insignifiant qui a séduit tant de générations d'artistes, les Guido Reni, les Salvatore Rosa et, chez nous, les Flandrin, les Delaroche et tant d'autres. Van Eyck l'a montré laid, tout à fait juif, avec un profil qui ressemble assez à la médaille de M. Boyer d'Agen et à la médaille frappée sous Innocent VIII au XVe siècle. L'école espagnole a toujours été réaliste, elle ne sait plus au crucifix peint et sanglant. Elle nous montre des Christ dont la physionomie sévère n'indique que la majesté ou la douleur. Chaque peuple sait, pour ainsi dire, caractériser dans sa manière de représenter le Christ. De même que les jansénistes nous ont laissé le souvenir de leurs doctrines fatalistes et terribles avec leur Christ en croix aux bras levés et menaçants. Saint Thomas dit quelque part que, logiquement, le Christ devait être laid parce qu'étant né par humilité dans une étable, il devait pousser l'humilité jusqu'à la laideur et aussi parce que sa parole divine ne pouvait rechercher le succès dans un attrait physique. On peut supposer aussi, non sans raison, que Jésus, avec des traits réguliers, n'avait ni beauté ni laideur, car les évangiles nous auraient parlé de l'une ou de l'autre, si telle avait été la note saisissante de sa physionomie. La laideur est une tare atavique ou personnelle. Elle éloigne au lieu d'attirer, et les évangélistes n'auraient pas manqué de nous dire qu'il attirait les foules malgré cette laideur, de même qu'il nous aurait signalé la séduction de son visage. Le regard seul, nous l'imaginons, pouvait avoir une beauté spéciale. Mais qui était capable d'y lire la grande pitié du monde, les visions surhumaines, les douleurs de la préscience et l'infinie douceur parmi ceux qui l'entouraient et ne le comprenaient pas encore? Revenons donc au sanctuaire de Turin, où, tout à coup, plusieurs ont découvert la physionomie idéale du Christ. L'image est réaliste, nullement conforme à l'esthétique du Moyen-Âge, qui, bien que réaliste, prêtait une coquetterie ou une laideur spéciale à la figure du Christ. Il est donc juste de dire, avec ceux qui connaissent l'histoire de l'art, que cette physionomie du sanctuaire n'est pas dans la note artistique du XIVe siècle, ni des siècles précédents. Et il faut reconnaître avec M. Vignon que cette image en négatif ne peut être l'œuvre d'un peintre de cette époque. Quel artiste ou imagier aurait eu l'idée de peindre les parties saillantes d'une physionomie en noir et les parties concaves en clair? à aucun point de vue, on ne peut admettre ici l'œuvre du pinceau, à moins que le temps et une décomposition chimique des couleurs n'aient amené la transformation du rouge en noir et l'intervertissement complet des tons, comme cela est arrivé à une fresque d'assises après un incendie. Or, le suaire a subi le contact de l'incendie de 1562. Il n'y a qu'une objection à cette remarque, c'est que le suaire était comme il est avant l'incendie de 1562. S'agit-il d'un incendie antérieur et inconnu ? Ici, nous perdons le fil de la discussion et nous retombons dans les origines inconnues de cette relique. Historiquement, rien ne sert de base à l'authenticité du suaire de Turin. Il apparaît pour la première fois, sans date précise, au XIVe siècle, en France, en Champagne, à l'abbaye de Liray, et personne ne sait d'où il est venu. La bulle de Clément VII, qui est de 1649, dit que Geoffroy de Charny, seigneur de Savoisie et de Liray, qui fonda en 1353 la collégiale de Liray, fit exposer dans cette église une image ou représentation du suaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, M. de Mély a découvert l'obit de Geoffroy de Charny à Liray, et il n'est pas question, parmi ses dons à l'abbaye, de celui du Saint-Suaire. Geoffroy II, fils du précédent, a déclaré, dit la même bulle, que cette image a été libéralement offerte à son père, libéraliter oblatam, et voici que Marguerite de Charny, petite-fille du fondateur de la collégiale, affirme solennellement à Dôle, en 1443, que le suaire a été conquis à la guerre par son grand-père. Ces déclarations contradictoires ont été parfaitement mises en lumière par l'étude critique de l'abbé Ulysse Chevalier et les articles de M. de Mély. Il faut en conclure, pour le moins, que dans cette famille de Charny, on ne s'entendait guère. Nous ne suivrons pas l'histoire du Saint-Suaire dans les démêlés de Marguerite de Charny avec l'abbaye de Liray. L'abbaye et Marguerite de Charny se disputent la relique par tous les moyens. Les autorités judiciaires, les tribunaux ecclésiastiques, le roi, le nonce, l'évêque de Troyes, le pape interviennent tour à tour et en sens différent. L'abbaye possède le Saint-Suaire et Clément VII, malgré l'évêque de Troyes, l'autorise à montrer cette image aux foules avides de la voir, mais à la condition de faire crier par un héros que ce n'est là qu'une image du vrai linceul du Christ. Pourquoi cette décision ? L'évêque de Troyes a écrit au pape que son prédécesseur avait eu la confession ou l'aveu de celui qui avait peint le suaire. Cet aveu, relaté par un autre que celui qui l'a reçu, ne nous inspire guère confiance. D'autre part, Clément VII, comme le fait observer Monseigneur Colomiati, est un antipape. Est-ce une raison, répond l'abbé Ulysse Chevalier, pour que ce qu'il a fait soit nécessairement mauvais ? N'entrons pas dans ces questions où nous ne sommes que des profanes et bornons-nous à dire comment le Saint-Suaire est arrivé aux mains des ducs de Savoie. Ce sont les chanoines de Liray qui, en 1418, craignant les malheurs et les désordres de la guerre, vont porter la précieuse relique au mari de Jeanne de Charny, Humbert, comte de La Roche, seigneur de Villers-Excel et de Liray, à son château de Montfort, en Franche-Comté. Il donne un reçu. Un drap ou quel est la figure ou représentation du suaire Notre Seigneur Jésus-Christ. En voilà un qui ne croyait pas à l'authenticité du suaire, et c'est le mari de Jeanne de Charny qui vendra la relique au duc de Savoie après l'avoir promenée de ville en ville, en France et en Flandre, et cela de façon assez peu religieuse pour en tirer des sous. Marguerite de Charny, toujours poursuivie par les réclamations de l'abbaye de Liray, échoue en Savoie, à Chambéry, où, désespérant sans doute de garder la précieuse relique, si elle la ramène à Liray, car les chanoines la réclament énergiquement, et Humbert de La Roche, mort depuis, s'était engagé à la restituer, elle se décide à la vendre au duc de Savoie en 1452. Les historiens ne parlent, il est vrai, que d'une donation au duc de Savoie ou à la duchesse, dernière des Lusignan, mais l'acte de vente ou de donation n'a pas encore été produit.